Radio Stabile.
Buona edition from NPR News.
Sì, sentito la house.
Radio Rosana Piperino.
Che si riproduce niente nella radio.
France Inter, le 18-20.
L'escale reportage d'un jour dans le monde nous emmène au Burkina Faso ce soir où les sacs plastiques sont un fléau tout comme chez nous, mais ils ont aussi une vertu. Vous verrez que grâce à une association qui recycle et fabrique, on fait aussi travailler les femmes. À suivre aussi 18h40, le retour sur les épisodes précédents que sont devenus ceux qui ont fait l'actualité, parfois même ébranlé le monde. Claude Guibal nous donne des nouvelles de Mahmoud Ahmadinejad, l'homme fort de l'Iran, il n'y a pourtant pas si longtemps. Le vrai du faux de l'Europe, c'est Delphine Simon par l'apprentissage en Europe. 18h55, Anthony Bélanger, l'édito avec un Kim Jong-un qui apparemment aurait renié certains engagements de son père. Mais d'abord, quel triste anniversaire, sans compter les jours, c'est parfois le moyen de se rendre compte de situations terribles. 1000 jours de guerre au Yémen, dans une indifférence internationale presque parfaite. On y va tout de suite.
Fabienne Saint-Pès, un jour dans le monde.
Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah
Akbar. Voilà, ça se passait au moment de la mort de l'ex-président Salé au Yémen, et on va y revenir juste dans un instant à cet épisode-là particulièrement, parce que peut-être qu'il a bousculé un certain nombre de choses. Bonsoir Laurent Bonnefoy.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur aux séries, spécialiste du Yémen et aussi de toute la péninsule. Je voudrais qu'on essaye d'abord, on le fait à chaque fois, c'est terrible, mais c'est indispensable, qu'on essaye de résumer très simplement et très rapidement ce qui se passe au Yémen. 1000 jours donc qu'ont commencé ces bombardements d'une coalition menée par l'Arabie Saoudite et une dizaine aussi de pays arabes, mais menée par l'Arabie Saoudite. Des bombardements qui visent les rebelles Houthis qui ont pris le contrôle de Sanaa, une partie du nord du pays, et qui l'ont pris grâce au soutien de l'Iran. Ce sont les civils évidemment qui, comme à chaque fois, payent le plus lourd tribut. On peut donner un chiffre, peut-être autour de 10 000 morts, c'est ce qu'on disait à l'instant. Est-ce que c'est un chiffre juste? Peut-être plus même.
C'est un chiffre qui est très vraisemblablement sous-estimé, dans le sens où il a été fourni il y a déjà quasiment un an, hein, en janvier 2017, par l'ONU, et donc ne comptabilise pas, notamment, toutes les victimes liées à l'épidémie de choléra qui, depuis avril dernier, aurait touché 1 million de Yéménites et en aurait tué plus de 2 000. Donc on est très vraisemblablement dans un niveau qui est bien supérieur à ces 10 000 morts.
Donc plus de 10 000 morts, une épidémie de choléra effectivement dont vous parliez. Avant de rentrer dans le fond politique, une famine aussi, l'eau potable qui est difficile à trouver, tout vole en éclats. Est-ce qu'il reste qu'un hôpital quelque part au Yémen qui fonctionne réellement?
Alors il y a un certain nombre d'hôpitaux qui sont notamment gérés par des ONG internationales. Les ONG internationales tentent notamment d'agir en dépit du blocus qui est mis en place par l'Arabie Saoudite. Mais il faut bien comprendre que toute cette aide humanitaire, et en dépit, même si le blocus était levé sur l'aide humanitaire, eh bien ça serait insuffisant, parce que au Yémen, on a 30 millions d'habitants. L'ONU estime que 70% de cette population a un besoin urgent d'aide humanitaire, et donc ce qu'il faut, c'est simplement lever le blocus et permettre à l'économie de fonctionner normalement.
Alors permettez-moi de pêcher par naïveté, qu'est-ce qui empêche à minima justement un cessez-le-feu, même provisoire, qui permettrait effectivement de lever le blocus, d'acheminer correctement des vivres, de l'eau, des médecins? Pourquoi même un cessez-le-feu, y compris quelques semaines, est impossible?
Parce qu'il y a un manque de volonté politique, très clairement un entêtement de la part de l'Arabie Saoudite et de son allié les Émirats Arabes Unis, qui jouent un rôle absolument central dans la coalition et qu'on oublie souvent. Et parce que, de l'autre côté, je dirais que parmi les puissances occidentales, particulièrement les États-Unis, le Royaume-Uni
et puis la France,
la France également, eh bien, il y a aussi une forme de refus de s'impliquer réellement et un refus de simplement mettre les Saoudiens devant leurs responsabilités, qui sont des responsabilités également juridiques, hein, tout simplement, parce qu'il y a un droit humanitaire international. Et l'ensemble des ONG aujourd'hui signalent combien ces règles élémentaires eh bien, ne sont pas respectés par les belligérants.
Alors justement, pourquoi est-ce que cette guerre est si absente? Pourquoi, effectivement, vous le disiez, ni Emmanuel Macron, ou en tout cas à voix basse, il y a eu des discussions entre le prince Ben Salman et lui à l'aéroport, à un aéroport, il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi Theresa May? Pourquoi les États-Unis? Pourquoi est-ce qu'on a exclu tout cela des discours politiques, encore une fois, y compris sur le plan humanitaire? Il est où le donnant-donnant, en fait? Pourquoi on protège l'Arabie Saoudite?
Alors, je pense qu'il y a une dimension qui est liée peut-être à la complexité propre du conflit yéménite et de ce qui s'y produit. Le Yémen, c'est pas n'importe quel pays, dans le sens où il est caractérisé par un grand nombre de spécificités qui font qu'on n'y comprend pas grand-chose.
C'est vrai.
Mais après, il y a aussi peut-être une forme de culpabilité qui est très directement liée à la relation économique que les Européens et les États-Unis nouent avec les monarchies du Golfe. Effectivement, avec les contrats d'armement. Alors, la France et à nouer des contrats. Ils ont été, sous la présidence Hollande, en grand développement, mais ils restent malgré tout bien plus minimes que ceux qui ont été signés par la Grande-Bretagne et puis les États-Unis. Il faut se souvenir que lors de sa visite, Donald Trump, la première visite qu'il a effectuée, c'était en Arabie Saoudite, eh bien, il a prétendument signé pour 100 milliards de dollars de contrats en armement.
Alors nous, vous le disiez peut-être à minima, mais quand même présent, la Grande-Bretagne, les États-Unis, est-ce que ce silence-là nous rend complice finalement? Et cette activité-là, cette activité d'armement nous rend complice? Est-ce qu'on peut le dire comme ça?
Oui, moi je le pense, après avec des degrés divers selon les pays.
Le Yémen ne peut plus attendre, pardon. C'est ce que disait mercredi, je crois, une tribune dans Le Monde qui a été signée par beaucoup de gens, notamment des gens du spectacle, à destination d'Emmanuel Macron, de Theresa May, de Donald Trump également. Est-ce que ce genre d'initiative, sérieusement, peut faire bouger quelques lignes? Est-ce qu'il y a vraiment un moyen de peser, en fait?
Moi, je le pense. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont extrêmement attentifs à leur image internationale. Ils sont disposés à payer des centaines de millions de dollars pour améliorer leur image avec des agences de communication. Ils ont lancé un certain nombre de réformes en interne, par exemple l'autorisation d'ouvrir des cinémas,
la conduite des femmes, etc.
Tout à fait. Eh bien, on perçoit qu'il y a un certain nombre de leviers. On perçoit qu'ils sont eux-mêmes fébriles. Et donc, il faut, d'une certaine manière, appuyer là où ça fait mal aujourd'hui. Eh bien, montrer à travers des campagnes publiques, à travers des émissions de radio, eh bien, que cette guerre-là est réellement une impasse. Les Yéménites en payent le prix, évidemment, mais il faut aussi avoir conscience que l'effondrement de la société yéménite ne se produit pas à huis clos. C'est-à-dire qu'on en paye, nous aussi, le prix, avec des questions de sécurité. La guerre a très directement renforcé les acteurs djihadistes. Il faut se souvenir que c'est Al-Qaïda dans la péninsule arabique qui a revendiqué l'attentat contre Charlie Hebdo. Et puis, il y a aussi une déstabilisation de la région, pas tout simplement parce que le Yémen, c'est le pays qui est le plus peuplé de la péninsule arabique. Et donc, il y a des pressions liées aux réfugiés qui peuvent se mettre en place et qui risquent d'avoir un effet aussi sur l'Arabie Saoudite et sur les routes commerciales.
Mais alors, vous le disiez, effectivement, on va revenir sur notamment Al-Qaïda dont vous parliez à l'instant. Vous disiez qu'il pouvait y avoir un certain nombre de leviers qu'on pouvait peser. Est-ce que le fait de mettre ce conflit sur la place publique, si enfin on le faisait, est-ce que ça pourrait réellement influer sur l'Arabie Saoudite?
Ben, j'ose l'espérer. Moi, je pense que c'est un des leviers qu'on a en main aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'indices qui montrent que la pression monte d'une certaine manière et qu'on commence à en parler de plus en plus. Il y a deux semaines, il y a eu la couverture de l'hebdomadaire de référence The Economist qui traitait de cette guerre qu'on qualifie souvent de cachée. Il y a également eu un certain nombre de reportages, je pense à Paris Match, qui montrent que les choses, elles évoluent.
C'est tellement compliqué d'entrer, tellement compliqué de montrer. C'est ça aussi qui rend les choses presque aveugles, en fait, au Yémen.
Tout à fait. C'est une des dimensions, mais il y a aussi des journalistes yéménites qui travaillent. Il y a les réseaux sociaux qui permettent de faire sortir les images. Aujourd'hui, on est aussi coupable quand on ignore ce qui s'y passe. Parce que si on veut savoir ce qui réellement se produit au Yémen, eh bien, on a les informations. L'ONU fournit les informations. Les ONG sont présentes sur place et actives et tirent la sonnette d'alarme depuis bien longtemps.
Mais on a l'impression quand même d'une course en avant demande un jusqu'au boutisme de la part de l'Arabie Saoudite. Il y a encore des tirs, il y a encore des tirs réguliers. Il y en a aussi d'ailleurs dans l'autre sens, en direction de Riyad. On a l'impression que tant qu'un outil sera encore là, en gros, cette guerre continuera, que l'Arabie Saoudite est absolument pas prête à lever le pied. C'est en tout cas le sentiment que ça donne.
Oui, alors c'est effectivement un entêtement qu'on perçoit. Ce jusqu'au boutisme, il a un coût humanitaire, puis il a aussi un coût économique. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite est engagée aussi dans des logiques de diversification de son économie, et il pourrait y avoir aussi des pressions internes au sein de la famille royale, par exemple, pour simplement admettre que c'est aussi une mauvaise opération économique d'engager autant de moyens pour une guerre.
Est-ce qu'il y a une opinion publique saoudienne ? Parce qu'il y a quand même 3 millions de Yéménites qui vivent en Arabie Saoudite. Donc est-ce qu'à un moment, à l'intérieur du pays, quand même, un certain nombre de choses peuvent bouger, ou ça, c'est pas possible ?
Alors c'est difficile, je pense, parce que tout simplement, le pouvoir de Mohamed Ben Salman, qui se construit actuellement, est engagé dans des logiques de répression à tout va. Et donc là, on a un certain nombre de limites qui font que sans doute les voix dissonantes ont peur. Par ailleurs, on peut malgré tout penser que les rivalités à l'intérieur de la famille royale, peuvent exercer un certain type de pression. Et puis on a des pressions économiques aussi, parce que si à Washington on estime que on a un dirigeant qui est bien peu rationnel, quand on regarde ce qui se passe à Riyad, le prince n'apparaît pas comme marqué particulièrement par une rationalité très très évidente. Et cette la logique qui voudrait que il produisent une forme de réforme aussi économique, pourrait aussi être sapée justement par cette dimension. On ne sait pas ce qu'il souhaite, il n'y a pas d'objectif. Et puis son obsession anti-iranienne aujourd'hui apparaît comme étant très largement irrationnelle.
Et alors justement, de ce point de vue-là, est-ce qu'on n'est pas en train de voir une escalade ? On a vu qu'un missile avait été tiré depuis les Houthis, donc depuis le Yémen, mais dont il a été très clairement identifié que ce missile était iranien, en direction de Riyad. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une réelle escalade, que ce missile-là ?
Alors, les missiles sont tirés de façon épisodique. Il se trouve que là, il y a un certain nombre d'indices qui tendent à montrer qu'effectivement, ils sont des missiles iraniens et donc n'appartenaient pas à l'arsenal détenu par l'armée
rebelle
yéménite et par les rebelles. Mais simplement, je dirais qu'il est difficile de faire comme le font actuellement les Saoudiens et les Américains, en mettant dos à dos d'une certaine manière, ou considérer donc l'Iran aurait une implication symétrique à l'implication saoudienne aujourd'hui, et que l'un et l'autre se répondraient. Il est évident qu'aujourd'hui, l'Arabie saoudite a une implication beaucoup plus importante et davantage responsable de la situation humanitaire et de l'enlisement du conflit que ne l'est l'Iran, même si l'Iran n'a pas un rôle constructif.
Qu'est-ce qui a changé depuis l'assassinat de l'ex-président Salé ? C'était il y a quelques semaines seulement, deux ou trois peut-être, qui s'était rallié en fait à l'Arabie saoudite après avoir été allié des Houthis. C'est aussi pour ça, on parlait de la complexité tout à l'heure, tout ça est très clanique et très complexe. La mort de cet ex-président, est-ce que ça a changé des choses dans la physionomie du conflit ou pas ?
Alors, assez peu pour le moment. Simplement, on a une redistribution des cartes qui est en train de se faire. Par contre, ce qui a réellement changé, je pense, c'est que pour la première fois, on a des combats au sol, dans la capitale Sanaa, et ça c'est sans doute pas une bonne nouvelle, tout simplement parce que ça induit des destructions qui sont très importantes, et puis des victimes. Et puis par ailleurs, on a une intensification des bombardements saoudiens, ce qui, encore une fois, est problématique.
Laurent Bonnefoy, il y a une chose qu'on a évoquée que trop brièvement il y a un instant, le paradoxe dans ce chaos finalement, c'est qu'il permet au terrorisme de prospérer. Vous citiez Al-Qaïda effectivement dans la péninsule arabique, mais c'est un peu comme si on ne mesurait pas cette importance-là. Est-ce que même nous occidentaux, on ne mesure pas ce qui est en train de se passer en termes de djihadisme et de terrorisme dans cette partie du monde.
Sans doute, et notamment dans la configuration régionale, à savoir que d'un côté, on prétend, et Emmanuel Macron l'annonçait, qu'on va remporter le combat contre Daesh, et puis de l'autre côté, au Yémen, d'une certaine manière, on laisse faire et on laisse toute une société s'effondrer et des structures étatiques, et on perçoit non seulement que ces groupes djihadistes bénéficient très largement du chaos politique, de l'absence d'institutions, mais qu'en plus la configuration régionale de la guerre, ce qui mettrait des chiites face à des sunnites, eh bien, alimente très directement la propagande des djihadistes.
Mais très concrètement, et parce que ça nous concerne aussi de près, est-ce que ça veut dire que cette branche Al-Qaïda au Yémen est susceptible d'organiser des choses, y compris dans notre direction, qu'on n'aura pas vu venir parce qu'on n'a pas regardé assez dans cette direction-là? Est-ce que c'est possible ou pas?
Alors, tout est possible, évidemment. Il se trouve qu'il y a une forme de rivalité qui s'est installée entre Daesh et Al-Qaïda dans la péninsule arabique au Yémen, que Al-Qaïda semble engagé dans des logiques peut-être plus strictement locales, mais Daesh a depuis 3 ans mené plus d'une centaine d'attentats, tout en ayant finalement un ancrage beaucoup moins fort qu'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Par ailleurs, il y a un certain nombre de spécificités qui sont liées tout simplement à la dimension géographique, c'est-à-dire que, y compris en termes de flux de combattants, le Yémen n'est pas la Syrie. C'est beaucoup plus difficile de l'atteindre.
Merci beaucoup, Laurent Bonnefoy. 1000 jours de conflit, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler avant les 2000 jours, et peut-être pour dire des choses un peu plus positives. Merci mille fois, spécialiste du Yémen donc et toute la péninsule également. Merci beaucoup.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le
La
monde.
Suite d'un jour dans le monde, c'est au Burkina Faso où on fait des portefeuilles et des porte-monnaies avec des sacs plastiques recyclés. À suivre aussi le feuilleton du jeudi avec des nouvelles de ceux qui ont quitté la scène internationale, parfois durablement. Vous nous emmenez en Iran, Claude Guibal.
Oui, pour vous parler de l'ancien président, vous vous souvenez de son nom,
Bien sûr, Ahmadinejad. Attendez.
Bravo.
Et qui ne devient pas grand-chose.
Eh bien, si, il revient, attention.
Et on le voit dans un instant, le vrai du faux de l'Europe aussi, avec Delphine Simon, on parlera apprentissage. Et puis, Anthony Bélanger, des promesses non tenues alors de Kim Jong-un.
Oui, enfin, un drôle d'article dans la presse chinoise que j'ai trouvé, que j'ai dégoté, un article sur la Corée du Nord et si Pékin envoyait un message à Washington, suspense.
Allez, merci beaucoup. Le tour du monde d'un jour dans le monde n'est pas fini. Voici Gregory Porter, Pick Up Yourself.
Pick yourself up. Take a deep breath. Dust yourself off. Start all over again. Nothing's impossible, I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, and start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip. And pick yourself up, dust yourself off, and start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So pick yourself up, take a deep breath, dust yourself off, start all over again. Like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off, start all over.
Nat King Cole, Gregory Porter, ça s'entend et c'est tant mieux d'ailleurs. Power Hit Radio. Magic FM. Florence Paracolo sous les radars comme tous les jours et dans les recoins de la planète. Ce soir, on commence au Pérou, Florence.
Le Pérou où le président Pedro Pablo Kuczynski est en train d'essayer de sauver sa tête devant le Parlement. Il va pas y arriver. A priori, il sera destitué dans les heures qui viennent, accusé de corruption comme deux de ses prédécesseurs. Qu'ils s'en aillent tous, ont scandé des milliers de Péruviens dans les rues de Lima hier. Voilà, s'il tombe, et c'est fort probable, l'opposition étant majoritaire à l'Assemblée, Kuczynski sera le premier président en exercice à sauter à cause du gigantesque scandale Odebrecht. Odebrecht, c'est un géant du BTP brésilien, 128 000 employés les bonnes années, 39 milliards de chiffre d'affaires, des marchés comme la rénovation du Maracana, le stade de Rio ou l'aéroport de Caracas, et un département, pot de vin, qui a arrosé toute l'Amérique latine pour obtenir ces marchés juteux. Son PDG, Monsieur Odebrecht, a été condamné à 19 ans de prison. Et dans la foulée, les têtes tombent. Celle de Lula au Brésil, qui a déjà pris 9 ans pour s'être fait offrir un triplex. Celle du vice-président équatorien, condamné la semaine dernière à 6 ans de prison pour avoir touché 13 millions de dollars. Celle du précédent président péruvien, Humala, en détention provisoire, 3 millions de dollars utilisés pour sa campagne électorale. Celle de Toledo, autre ancien président péruvien qui attend son extradition des États-Unis, sans compter des ministres panaméen, ça donne le tournis. La tête de Maduro, elle, est bien accrochée au Venezuela. Il est soupçonné d'en avoir croqué lui aussi. Mais la justice a écarté toute enquête. La corruption est une maladie latino-américaine infiltrée dans toutes les bases du système politique. Diagnostic lapidaire d'un politologue péruvien interrogé par l'AFP.
Allez, plus au nord, Florence. Aux États-Unis, on perd de l'espérance de vie.
Et c'est la deuxième année consécutive de baisse qui n'était pas arrivée depuis plus de 50 ans. 78 ans et 7 mois d'espérance de vie selon les dernières statistiques. Une longévité plus courte d'un mois, soit, mais qui inquiète les autorités de santé parce qu'elle est la conséquence de l'épidémie d'opioïdes qui sévit depuis quelques années aux États-Unis. Les Américains sont de plus en plus nombreux à tomber dans l'héroïne et le fentanyl, puissant analgésique synthétique. 63 000 décès par overdose d'opiacés l'an dernier, c'est trois fois plus qu'il y a 8 ans. 2 millions d'Américains accros, ça commence souvent de façon légale en consommant des médicaments. Une urgence de santé publique selon Donald Trump qui devrait demander au Congrès de débloquer des fonds pour combattre ce fléau. Notons tout de même que les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité aux États-Unis.
Allez, vous nous emmenez faire la fête hein, dans la ville à la mode désormais.
On est à Budapest, Fabienne.
Génial.
On s'éclate dans un club.
Ouais.
Vous sentez les vibrations des basses?
Beaucoup.
Le problème, c'est que les riverains aussi sentent les vibrations des basses dans l'ancien quartier juif de la ville. Nouvelle Mecque de la fête pour les jeunes européens. 800 bars, boîtes et restaurants dans moins de 2 km carrés. La plupart n'existaient pas il y a encore 5 ans. Et c'est devenu l'attraction. En 8 ans, le nombre de touristes a doublé à Budapest. 3,5 millions par an. Essentiellement attirés par la nuit et l'alcool pas cher. 1,50€ la pinte de bière. De quoi se bourrer la gueule à bon prix. Résultat du bruit,
dit comme ça.
Des gens qui vomissent dans la rue et par le gain alléché des dealers pour faire tenir les fêtards. Tout cela cohabite mal avec les 15 000 habitants du quartier qui se plaignent, comme l'avaient fait avant eux les habitants d'Amsterdam ou de Barcelone.
Et vous allez me laisser comme ça?
Salut Fabienne.
Est-ce qu'on peut baisser la musique? Allez, merci Florence. Bonne semaine.
Konnichiwa.
France Inter.
A Konku Tolo.
A Bombeshmaio.
Le 18-20. Un jour dans le monde.
Et nous sommes au Burkina ce soir. Au Burkina, vous allez le voir dans un atelier ou pas loin où l'on recycle des sacs plastiques pour donner du travail aux femmes et aussi pour fabriquer quelque chose d'utile. Bonsoir Anne Mignard.
Bonsoir.
Anne, ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'au Burkina, d'ailleurs comme partout, le sac plastique est devenu une véritable malédiction.
Oui, on en trouve partout, dans les boutiques bien sûr, pour transporter les provisions, mais aussi dans les rues, au bord des routes, dans les champs et dans les rivières. Même si le gouvernement a interdit l'utilisation de ces sacs il y a 2 ans déjà, ce poison continue de circuler. Mais des femmes ont choisi de faire de ce déchet une richesse. ce sont les femmes du Gaffray.
Et on les appelle les magiciennes du plastique. On écoute votre reportage, Anne.
Alors nous sommes dans l'atelier du Gaffray. Le Gaffray, ça veut dire groupe d'action des femmes pour la relance économique du Ouette. L'Ouette, c'est la région de Bobo-Dioulasso, la seconde ville du pays, la capitale économique du Burkina. Dans cet atelier, une dizaine de couturières sont attablées à leurs machines. Elles ont entre les mains un tissu noir issu du recyclage des sacs en plastique. Parmi elles, Pauline, cette maman de deux garçons, travaille depuis presque 10 ans dans les ateliers du Gaffray.
C'est un peu difficile, mais les machines, c'est un peu épais par rapport au coton. C'est pas la même chose. Pour couper là même, c'est un peu difficile parce que si c'est le coton, on coupe ça directement, mais avec ça, avec les sachets plastiques, il faut tracer, il faut coller d'abord avant de les couper pour commencer à travailler. C'est un peu dur à coudre par rapport au coton.
Elles sont en tout une centaine à travailler au Gaffray. Les moins formées quadrillent la ville à la recherche des sacs plastiques usagés et croyez-moi, il y en a. D'autres sont affectés au traitement de ces sacs. Elles les lavent, les sèchent et les amènent à l'atelier où Pauline et les autres femmes les découpent en bandes et les tissent pour ensuite faire des sacs à main, à dos, des portefeuilles, des housses pour ordinateurs, des colliers, des porte-clés. L'association existe à Bobo depuis maintenant 15 ans. Les débuts n'ont pas été faciles, mais elle est désormais connue dans toute l'Afrique de l'Ouest et elle a même fait des petits. Kadi Traoré est la secrétaire du centre de recyclage. Elle est aussi en charge des ventes.
Il y a beaucoup de femmes qui veulent travailler avec nous. Il y a beaucoup d'associations dans le monde qui veulent vraiment faire les mêmes activités que nous, transformer les sachets qui sont dans leur pays. Et on a eu à former des femmes au Sénégal. On a eu à former une association au Mali. Et il y a une association au Guinée qui a demandé une formation. Une association kenyane aussi qui a déposé une demande de formation, pareil pour la Côte d'Ivoire.
Il faut dire que le concept est séduisant. Il permet d'une part à des femmes de travailler alors qu'elles sont cantonnées aux tâches domestiques. Et puis certaines n'ont aucune formation professionnelle et peuvent, en ramassant ces sacs, gagner un peu d'argent. Mais les activités du Gaffray permettent aussi de lutter contre la pollution. Ces sacs plastiques sont aujourd'hui responsables du décès d'un tiers du cheptel national. Et quand on sait que 80% de la population active travaille dans l'agriculture, on peut imaginer l'impact de la disparition de ces bêtes. Ces plastiques bouchent aussi les canalisations qui sont déjà fragiles et provoquent des coupures. Et ça marche, 90% de la production du Gaffray est écoulée à l'étranger, notamment via des associations ou des particuliers comme Safiatou Sissoko. Cette Burkinabé est mariée à un Français, habite Saint-Médard-en-Jalles, tout près de Bordeaux. Elle s'occupe de vendre les productions du Gaffray sur les marchés artisanaux. Elle a enquêté, elle sait ce qui plaît aux Français.
L'idée de recycler depuis l'Afrique, le continent africain déjà, l'idée que c'est fait par les femmes, et l'idée que ça permet de participer au nettoyage de la planète. Que c'est joli, que c'est solide et léger.
Seulement voilà, depuis quelques temps, les ventes chutent.
Ça, c'est, on n'en veut à personne, c'est dû à la situation internationale qu'on vit. Il y a des problèmes financiers, il y a les histoires de djihadistes, tout, donc ça ralentit beaucoup notre activité. 2009, 10, 11, 12... On faisait des chiffres d'affaires de 33 millions, 34 millions. Maintenant, on est à 20 et quelques millions.
Et du coup, le Gaffray cherche à vendre directement sur le marché national. Mais le problème, c'est le prix.
Les gens parlent du prix. Je le comprends beaucoup parce qu'avec la friperie qui rentre ici au Burkina, avec 2000, 3000, tu as les sacs qui viennent de la Chine. Mais les gens qui ont compris que tu peux acheter un sac 3 fois dans l'année pour ton élève, à 3 000, à 2 000, tu reviens à nous, notre sac que tu peux utiliser 2 ans, ces gens reviennent vers nous. Les gens commencent à comprendre.
Effectivement, les ventes locales décollent, mais elles n'ont pas encore compensé la chute du chiffre d'affaires de ces dernières années.
Anne Mignard, au Burkina Faso pour Un jour dans le monde sur France Inter. Merci beaucoup, Claude Guibalella.
France Inter.
Previously. Dans l'épisode précédent.
Fabienne Saint-Esse.
Précédemment.
Previously.
Previously.
Un jour dans le monde.
Le retour sur les épisodes précédents, que sont devenus ceux qui ont parfois ébranlé le monde avant de disparaître. Et là, c'est vraiment le cas de votre personnage de ce soir, Claude. Quand il était au pouvoir, c'était l'un des plus redoutés des hommes du Proche-Orient.
Oui, et il s'agit de Mahmoud Ahmadinejad, l'ancien président de l'Iran de 2005 à 2013. Ahmadinejad, un ingénieur devenu maire de Téhéran avant d'être élu à la présidence. Un personnage, Fabienne, très provocateur, qui a bâti son identité sur le populisme en jouant sur son image d'homme du peuple, très simple, toujours vêtu de façon très modeste, avec son fameux blouson beige. Et puis, deux autres traits particuliers, le conservatisme et l'ultranationalisme. On se souvient notamment de ses diatribes contre Israël, qualifiées de tumeur à faire disparaître. Et puis, autre ennemi traditionnel pour lui, les États-Unis. Écoutez plutôt. Alors là, Fabienne, il faut imaginer la scène, elle se passe lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, on est en 2010, et Ahmadinejad est tranquillement en train d'expliquer que les attentats du 11 septembre, en fait, c'est juste le résultat d'un grand complot américain, d'une manipulation de la Maison Blanche, et là, les délégations américaines et européennes, furieuses, quittent la salle, et ce genre d'esclandre, on va régulièrement le voir tout au long des provocations lors de tous les mandats d'Ahmadinejad.
Alors là, on est en 2010, en 2009, donc un an plus tôt, deuxième mandat.
Oui, deuxième mandat. Il faut dire que là, les choses se sont pas tout à fait passées comme il l'espérait à l'époque. Ahmadinejad avait beau multiplier les subventions à l'égard des plus défavorisés. À ce moment-là, il est rattrapé par les soupçons de corruption. Et la jeunesse iranienne qui attendait enfin une ouverture démocratique, elle va se tourner massivement vers ses opposants. Mais le jour où les résultats de l'élection présidentielle tombent, c'est le 12 juin, c'est le choc. 62% des votes en faveur d'Ahmadinejad, on s'y attendait pas. L'opposition crie à la fraude, des centaines de milliers de personnes descendent dans les rues et pour la première fois, grâce à Internet, pourtant très contrôlé, des images sortent et on voit la jeunesse iranienne qui se lève, on voit surtout la répression qui va s'incarner, vous vous en souvenez sûrement, dans le visage de Neda, une jeune femme tuée sur un bord de trottoir.
Une répression féroce, Claude, qui coupe net les espoirs d'une révolution verte.
Ouais, et ces espoirs, vous vous en souvenez, ça avait été terrible. C'est rien de le dire, ce qui s'est passé. Écoutez d'ailleurs Mahmoud Ahmadinejad qui répond à ce sujet à notre collègue de France Télévisions, Renaud Bernard.
Monsieur le Président, vous nous recevez trois jours après des manifestations qui ont eu lieu à Téhéran et dans d'autres villes du pays. Avez-vous volé cette élection comme l'opposition le dit ?
En Iran, il y a la liberté. Les gens peuvent s'exprimer, mais c'est la loi qui règne. Au sujet des élections aussi, c'est la loi qui règne. Nous n'avons pas de problème. Les gens s'expriment et la loi fait son travail. Le gouvernement iranien est le gouvernement le plus légitime de la région et du monde.
Allez, question rituelle donc maintenant, Claude. Que devient-il, ce monsieur ?
Eh bien, depuis qu'il a quitté le pouvoir en 2013, Ahmadinejad a repris donc ses fonctions à l'université de Téhéran, mais il tente de revenir en politique. Alors moi, je l'ai vu dans une mosquée à Téhéran faire un discours, c'était il y a 3 ans. Je ne vous raconte même pas, Fabienne, le mouvement de foule. Sérieusement, j'ai failli y passer, c'était vraiment hallucinant. C'est vraiment difficile d'imaginer à quel point il peut être vénéré toujours par beaucoup de gens qui voient en lui le protecteur du peuple. Et ça, les autorités iraniennes, elles le savent très bien, et c'est pour ça qu'elles ont d'ailleurs refusé de valider sa candidature lors de la présidentielle en mai dernier. Et ces autorités iraniennes, elles font tout pour l'empêcher de revenir. Et c'est pour ça qu'Ahmadinejad est aujourd'hui au cœur d'une énorme polémique après le bilan très lourd du tremblement de terre qui a eu lieu, vous vous en souvenez, le mois dernier. Il y a eu plus de 500 morts, beaucoup d'immeubles qui se sont effondrés. Et ces immeubles, ils avaient été construits dans le cadre d'un programme immobilier que Ahmadinejad avait lancé. Et le gouvernement dit donc qu'il y a eu corruption pour ces constructions. Ahmadinejad est donc accusé d'être responsable de ces morts. Bref, vous le voyez, l'ombre de l'ancien président fait quand même toujours trembler le pays des Mollahs.
Claude Guibal, merci beaucoup. Claude, dans Un jour dans le monde, qu'on appelle aussi d'ailleurs Mrs. Dynamite.
Used to spend
programmation d'Un jour dans le monde, c'est de la dynamite.
France Inter. Un jour dans le monde.
Le vrai du faux de l'Europe est Delphine Simon. Delphine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous tombez à pic, on a parlé d'apprentissage hier, ici même, dans le téléphone sonne.
Tiens donc.
Et au menu aussi du vrai du faux, donc.
Oui, le gouvernement, vous le savez donc, veut le réformer. Des concertations sont engagées avec les partenaires sociaux. Objectif, améliorer l'accès à l'apprentissage, une formule qui reste assez peu développée. À l'appui de son projet, écoutez l'argument de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail.
On n'a que 400 000 apprentis en France. Ouais. Les autres pays européens qui n'ont pas de chômage de masse des jeunes, ils ont 15% d'apprentis.
Donc le chômage des jeunes est faible dans les pays qui comptent une proportion de 15% d'apprentis, vrai ou faux ?
C'est plutôt vrai. Si l'on prend l'exemple de l'Allemagne, outre-Rhin, on compte 3 fois moins de jeunes au chômage qu'en France. Quant au nombre de jeunes en apprentissage, eh bien, il est 3 fois plus élevé de ce côté-là du Rhin. Environ 400 000 apprentis en France, 1,5 million en Allemagne, idem en Autriche, au Danemark, aux Pays-Bas ou en Suisse, selon un rapport de l'Institut Montaigne. À l'inverse, en France, en Italie ou en Grèce, des pays où les formations qualifiantes en entreprise sont peu développé, eh bien le chômage des jeunes est élevé. Sur le constat, Muriel Pénicaud a donc plutôt raison.
Alors, l'apprentissage, c'est vraiment la solution miracle contre le chômage des jeunes. Alors
c'est vrai que ça marche, hein, Fabienne. En moyenne, 70% des jeunes ont un emploi 7 mois après avoir décroché leur diplôme. Mais ça dépend aussi du niveau de ce diplôme. 80% d'insertion pour un master en alternance dans l'enseignement supérieur. Ça tombe à 60% avec un CAP. En Allemagne, l'apprentissage, ça marche surtout très bien pour les jeunes de qualification intermédiaire. L'équivalent du bac pro, ils réussissent presque 2 fois mieux qu'en France. En revanche, et ça c'est une constante, l'apprentissage échoue à intégrer les jeunes sans qualification ni diplôme, une difficulté qui vaut des deux côtés du Rhin.
Donc pourquoi ça marche mieux quand même en Allemagne ?
C'est d'abord une question d'organisation. D'abord, la formation elle est plus ciblée sur les besoins des entreprises. En Allemagne, l'apprentissage dure aussi 2 fois plus longtemps et surtout c'est la voie royale vers un certain nombre de métiers, d'employés ou d'ouvriers qualifiés. Une liste précise même les 300 métiers pour lesquels l'apprentissage est l'unique formation initiale.
Et puis, on en parle beaucoup, question de perception.
Oui, ça tient en partie à la démographie. En Allemagne, la main-d'œuvre jeune décline, 1 million de moins d'ici 2020, d'où l'urgence pour les entreprises allemandes de former efficacement. En France, on voit les choses autrement. L'apprentissage est plutôt une solution pour aider les jeunes à mettre le pied à l'étrier, tout en limitant le coût du travail. Alors, il faut bien le reconnaître, hein, en France, l'apprentissage n'a pas une très bonne image. Il est encore souvent proposé à des jeunes en difficulté scolaire, alors qu'en Suisse, par exemple, ou en Allemagne, certains ministres sont d'anciens apprentis et ils le font savoir. En France, on aurait du mal à en citer un seul, Fabienne.
Voilà, ancien ministre apprenti ou apprenti ministre sont deux choses très différentes. Merci beaucoup, Delphine Simon, l'édito d'Un jour dans le monde. Avec vous, Anthony Bélanger, pas un jour alors sans nouvelles de la Corée du Nord.
Eh oui, aujourd'hui c'est un soldat nord-coréen qui déserte, juste une remarque sur ses désertions et ses passages au sud, vous savez comme on disait à l'époque, à l'ouest, passer à l'ouest, à l'époque du bloc soviétique, elles sont extrêmement rares ces désertions, plus rares encore lorsqu'il s'agit de militaires. Il y a en moyenne entre 1000 et 1500 nord-coréens qui tous les ans rejoignent la Corée du Sud, un chiffre au fond assez faible pour un pays de 20 millions d'habitants, et alors que l'économie sud-coréenne est 44 fois plus puissante que celle du Sud. C'est un chiffre absolument énorme, de 1 à 44. Ça signifie que ça s'explique par des frontières plus qu'hermétiquement closes, hein, entre les deux frères ennemis, par le fait aussi que les deux autres pays frontaliers de la Corée du Nord, la Chine et la Russie, sont deux alliés de Pyongyang, donc plutôt enclins à renvoyer les fuyards. Et puis il reste le Japon, à quelques centaines de kilomètres plus à l'est. Mais la traversée de la mer du Japon est très dangereuse et l'on retrouve régulièrement, vous savez, ce qu'on appelle des bateaux fantômes remplis de cadavres de fugitifs échoués sur les côtes japonaises.
Et puis alors, il y a aussi cet article que vous avez trouvé dans la presse chinoise.
Effectivement, un article passionnant à plusieurs égards. D'abord, il a été publié, cet article, dans le South China Morning Post, un quotidien de Hong Kong en anglais, et qui régulièrement sert de boîte aux lettres aux autorités chinoises. Je veux dire par là que le Post est un quotidien sérieux, de tradition occidentale, publié dans un territoire qui appartient à la Chine, mais qui est autonome, Hong Kong donc. Autrement dit, c'est le quotidien idéal lorsque Pékin veut adresser un message discret à l'Occident. Ce n'est pas le quotidien du peuple en clair, ça c'est trop évident, trop visible. Et qui est interviewé dans cet article ? Un ancien diplomate en charge, il y a encore une dizaine d'années, de la Corée justement, au ministère des Affaires étrangères chinois. Là encore, un officiel à la retraite, mais de haut rang. Impossible d'imaginer que ce Yang Xiyu se soit permis une interview sur un sujet aussi brûlant, la Corée du Nord actuelle et son programme nucléaire, sans en avoir immédiatement référé, et même très très en avance, à son administration d'origine. Or, Alors, que dit cet homme? Mm-hmm. Eh bien, il explique que le père et le grand-père de Kim Jong-un avaient passé un accord tacite avec Pékin. S'arrêter juste avant d'avoir acquis la bombe atomique et avant de l'avoir suffisamment miniaturisée pour la placer sur un missile. Or, cet homme explique que l'actuel dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un donc, eh bien, a jeté aux orties cet accord. La meilleure preuve de ce retournement stratégique est l'humiliation subie il y a à peine un mois par un officiel chinois de passage à Pyongyang.
Et donc, vous m'arrêtez si je me trompe, il n'a pas été reçu.
Presque. Cet homme, il s'appelle Song Tao, envoyé spécial du président Xi, a visité la Corée du Nord pendant 4 jours, c'était le mois dernier donc, il a bien été reçu par le bras droit de Kim Jong-un, mais pas par le dictateur joufflu de Corée du Nord, qui n'a pas trouvé une minute sur 4 jours de visite pour le saluer. D'où l'humiliation. Alors maintenant, le message. Pourquoi Pékin prend-il toutes ses précautions pour raconter cette humiliation et surtout la trahison nord-coréenne, hein ? Eh bien, tout simplement parce qu'en ce moment même, les États-Unis sont en train de faire monter la pression sur le seul sujet qui compte, le commerce bilatéral entre Pékin et Washington. La croissance chinoise tourne probablement plus près des 4% que des 6,9 officiellement admis par Pékin. C'est clairement un ralentissement. Or, la Chine reste avant tout une économie exportatrice. Les États-Unis sont de loin leur premier marché. Et lorsque Donald Trump explique que le commerce bilatéral est trop déséquilibré en faveur de la Chine, il sème la panique, la vraie, la seule, du côté de Pékin. Or, la Corée du Nord, son programme nucléaire et son régime ombrageux sont une monnaie d'échange toute trouvée. Le message est donc, nous n'aurions aucun état d'âme à abandonner Pyongyang si, en retour, Washington promet une paix commerciale éternelle. En tout cas, ça se discute.
Merci beaucoup, Anthony Bélanger. Le 18-20 continue dans un instant avec le journal de Virginie Pironon et puis le téléphone sonne. On parle patrimoine ce soir.